CO2 Mon Amour, avec le WWF. Construisons un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
Ah non, c'est pas possible!
Hein, quoi?
Mais regarde-moi, c'est les cons!
Où ça, les cons?
Là! Tiens, arrête-toi! Je vais leur dire que c'est des cons! Ils doivent pas le savoir!
Mais foutez-leur la paix! Ils font de mal à personne!
Mais je m'en fous! C'est pas possible d'être aussi con!
CO2, mon amour.
Oh, 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 on est en République, s'ils veulent bouffer sur le bord de la route, c'est leur droit. Tout le monde peut pas aller au restaurant.
Mais je leur demande pas d'aller au restaurant. Mais je suis sûr qu'à 20 mètres de là, il y a un prix, de l'herbe et tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Eh ben non! Faut qu'ils s'installent au bord de la route!
Denis Chessou.
C'est des cons, je te dis!
Ah bah on est bien, nous tandem, on aime bien, bah oui, c'est le jeu des 1000 euros, mais ça se passe beaucoup mieux hein, avec Nicolas Soufflet, bah oui, je vous rassure. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce que l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même, en tout cas, qui essaie. Johanna Gabric est aujourd'hui à la technique et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et bienvenue à Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Qui commence toujours par une petite humeur. « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », disait le père Mathieu en extirpant tout fier un caillou de l'ornière. « Je suis pierre et vacances et je bâtirai une pizzeria avec des dizaines de cages de luxe à touristes en batterie, une serre tropicale sous bulle, un parking géant au milieu d'une zone humide boisée encore intacte, d'une importance majeure dans l'équilibre hydrographique de toute une région menacée de sécheresse. Et je l'appellerai Center Park. Ce sera en Isère, à Roibon, lieu déshérité en emploi. Donc un fabuleux projet, pensé puis parachuté depuis les tours d'un centre de décision siphonneur de subventions publiques. Lieu parfait pour faire rôtir l'andouillette béate, ramener un max de pépettes avec la bénédiction d'élus qui veulent des emplois de service, même à mi-temps, et sous la protection des archers de monsieur le préfet. Projet parmi d'autres et disproportionné qui laissera, une fois le rêve épuisé, rentabilisation consommée, une nature en eau exsangue, peignée, ratissée, asphaltée, et des employés inutiles sur la route de Pôle emploi, victimes de restructuration commerciale, car les cottages à terme seront revendus. Alors je sais, c'est un peu long comme préambule, mais pas aussi long que la lutte que France Nature Environnement Rhône-Alpes Auvergne, qui s'appelait la FRAPNA, mène pour modérer les appétits d'ogres bouffeurs d'espace et de terres agricoles, pour qui la nature est un immense parc de loisirs. Vacances et pierres, alors au moins on n'avance pas masqué, tout est dit dans l'intitulé du groupe, et le combat n'est pas fini. Et comme il est écrit dans la Bible, parfois, même à Roibon, à l'ombre du Vercors résistant, eh bien, le petit David pourrait terrasser le puissant Goliath sous amphétamine. Alors évidemment, il faut avoir des moyens pour cela. Et là, France Nature Environnement, donc Auvergne-Rhône-Alpes, doit mener une bataille juridique encore plus technique, plus dure que les précédentes. Alors elle a besoin de moyens, donc avis aux amateurs via leur site. Et Roibon, bah, vous le savez bien, n'est pas du tout un cas isolé. Hein. Il y a des milliers d'hectares en France qui attendent d'être écrabouillés. Entrepôts logistiques, contournements routiers, des villes, Europa City en Ile-de-France, j'en passe et des meilleurs. Ah tenez, on se bat aussi à Uzès. Ah, intéressant ça aussi, Uzès. Un projet de ZAC de 11 hectares que veut imposer la communauté de communes. Le préfet doit donner bientôt son autorisation. Donc une folie de plus à l'heure de la transition dite écologique qui méprise les questions civitales du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, alimentaire, sociale, parce qu'on dévitalisera le centre-ville. Balafre des paysages, et lors de la dernière consultation, bien quand même près de 80% de la population s'y est opposée, avec des arguments qui étaient solides. Le sol concerné recèle aussi une des terres les plus fécondes du Gard, et les études indépendantes réalisées montrent l'inanité économique de ce type de zone commerciale. Alors moi je veux bien affichage d'un plan national biodiversité ambitieux, mais dans un système où on laisse le renard, et Dieu sait si j'aime cet animal, hein, le renard. Renard armé d'avocats, d'entre-gens, de puissances bancaires, de chantage à l'emploi. Quoi ? Baisse de la conso en France, de la croissance mondiale. Mais que nenni, vous n'allez pas croire l'OCDE à l'INSEE quand même. Allez, allez, on trace le chemin du 15% de retour sur investissement, religion financière obligatoire enseignée dans toutes les bonnes écoles de commerce, et à Roibon, Uzès, comme ailleurs, la terre sous le béton ou sous le parking ne ment pas. Notre-Dame-des-Landes, priez pour nous. On va débuter par une petite actualité. Tenez, écoutez ces jeunes.
C'est dommage, chance aujourd'hui d'avoir à choisir entre aller à l'école et manifester pour son avenir, en fait, parce que les deux sont super importants.
En fait, on remet toute la responsabilité sur les gens en disant que bah oui, c'est la faute des gens, ils polluent, ils trient pas, etc. Mais non, en fait, nous on veut des mesures globales, on veut un changement de politique écologique.
Nous sommes les premiers concernés, sachant que c'est nous qui allons vivre en 2050 les catastrophes. Et ben, c'est très important, je pense, que nous, tous les jeunes, les lycéens, les étudiants et les autres, on arrive à se mobiliser pour ce sujet.
Ah oui, ça bouge un petit peu partout en France, ça c'est nouveau, il y a 5 ans on n'en parlait absolument pas, enfin on se doutait pas que ça pouvait être comme ça, bah c'est ainsi, et ça fait un petit peu écho avec ce qui se passe aussi sur le climat. Bonjour Freddy Maignan.
Oui, bonjour.
Alors Freddy Maignan, vous êtes, je le dis, le président de Mountain Wilderness France, vous êtes aujourd'hui donc là en direct d'une manifestation qui se passe du côté de Grenoble pour encorder pour le climat. Alors les constats, on les connaît aussi sur la montagne parce que ça se réchauffe encore plus vite, c'est un milieu encore plus sensible on va dire que la plaine, température en montagne qui monte, modification du débit des rivières, les voitures, alors évidemment après on sort une espèce de qui s'appelle les canons à neige pour essayer de braver tout cela, et puis une nature qui doit s'adapter quand même extrêmement vite. Donc ça, c'est un peu le constat que vous faites, Freddy Maignan, aujourd'hui.
Ah oui, oui, oui. Et vous savez, ça fait un bout de temps que je vis ou que je pratique la montagne, on va dire. J'ai toujours vu les évolutions, les changements, la montagne bouge. Mais là, ce qui se passe dans les dernières années, c'en est violent. Et très sincèrement, intérieurement, moi, je suis un peu retourné par ce que j'ai vécu en haute montagne, c'est-à-dire retrait glaciaire, mais... On pense toujours à l'échelle du temps, mais là, ça va à toute allure, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Et les éboulements, moi, je les ai vécus, ça a impacté lourdement mon activité de gardien de refuge. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est que la haute montagne est un terrain à la fois magnifique, plus fragile et plus impacté par le réchauffement climatique. Et alors, pour nous qui les pratiquons, ça nous brasse énormément. Et dans l'imaginaire, c'est important parce que les montagnes, vous savez, à l'école, on apprend les neiges éternelles, les montagnes qui paraissent éternelles. Mais même celles-ci morflent avec le réchauffement climatique. Il y a une vitesse qui est quand même assez hallucinante.
Alors, Freddy Maignan, donc là, vous êtes tous ensemble encordés pour le climat. Donc là, vous êtes sur Grenoble. Maintenant, on va dire les solutions. On commence à les connaître depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous souhaitez ?
Ah ben moi, clairement, je me réjouis de ce que je sens qui pointe dans le milieu de la montagne. C'est-à-dire que c'est un milieu, vous savez, le milieu de la montagne, c'est un milieu de gens engagés, passionnés, motivés, mais qui sont habitués à l'autonomie, et ça c'est bien, et qui souvent font un peu tout seul, quoi, on se débrouille, quoi. Or là, tout seul, on ne peut pas. Et ce qui se passe en ce moment, ça bouge dans le milieu de la montagne, ce qui se passe en ce moment, c'est que voilà, il y a 30 organisations qui appellent à ces manifestations encordées pour le climat partout en France, donc des organisations, mais y compris des entreprises, tous les médias de montagne appellent aussi à ces manifestations, et il y a le sentiment que c'est à la fois des actions individuelles, mais à la fois on n'a pas d'autre solution que de s'y mettre tous ensemble. C'est pas au nom d'une idée, d'une idéologie ou autre, c'est qu'on a besoin de changer nos modes de vie, on a besoin d'autres priorités concrètes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans doute limiter les voyages en avion, ça veut dire sans doute limiter les voyages en voiture, ça veut dire repenser même le tourisme. Vous savez, le tourisme, on pourrait en discuter, on n'a pas le temps là, non. Mais le tourisme, on fait des villes à la montagne, alors que la montagne, c'est un terrain extraordinaire pour les sens, c'est-à-dire écouter le silence, observer l'obscurité, les étoiles, la lune, sentir la nature, sentir ce que nous sommes sur Terre, c'est un territoire d'expérience fantastique.
Terrain formidable pour l'essence en deux mots et non pas l'essence en un seul mot. Merci à vous Freddy Maignan, donc encordé pour le climat, donc je le rappelle, président de Mountain Wilderness. Voilà, donc bah écoutez, défilez bien et puis donc à très bientôt, on reviendra bien sûr sur ces sujets et on va se faire nous un lien en fait avec nos trois sujets aujourd'hui donc en direct. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Le bug humain, pourquoi notre cerveau pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, ça nous intéresse bien, ça en une phrase.
En une phrase, c'est que moi je suis épaté par toutes les initiatives que j'entends, mais qui suppose quand même qu'on renonce à pas mal de choses qui fait notre cadre de vie. Or, notre cerveau n'est pas forcément fait depuis des centaines de milliers d'années pour renoncer notre cerveau à un principe qui demande toujours plus. Et ça va être très difficile de lutter contre ce principe intérieur. Donc c'est un appel à connaître nos limites jusque dans notre système nerveux.
Alors donc on a ce bug humain à côté et avec vous Alexandre Rambaud, vous êtes enseignant-chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Je vous ai un petit peu invité parce que je me suis dit, d'accord, il y a un bug humain, il y a peut-être aussi un bug comptable, racontez-nous.
Oui, Il y a un bug comptable, parce que la comptabilité, qui est le langage des organisations et le cœur des systèmes socio-économiques, n'intègre pas les enjeux et préoccupations environnementales et sociales. Et en plus, certaines propositions pour le faire pourraient aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Ça nécessite à minima un débat.
Alors donc justement, on va pouvoir en parler, on va pas forcément débattre, mais on va pouvoir comprendre pourquoi effectivement tout ceci bug merveilleusement. Et puis, nous aurons aussi notre page nature, oui, avec une jeune femme bretonne dans les Côtes d'Armor qui s'appelle Catel Laure. Vous allez voir aussi, ça va nous faire le plus grand bien. C'est parti, en musique.
Nous jeunes prophètes, j'attends pour nous.
Amis créoles, respectez-nous, c'était Delrez. Ben, respectez-nous, ça va plutôt assez bien. Il y avait d'ailleurs Souchon qui l'avait très bien dit avec Foule Sentimentale. Oh, étonné.
CO2, mon amour.
L'intelligence est disparue.
Denis Chessou.
Et je veux pas être pessimiste, mais il y a des fois où elle s'absente longtemps.
Sur France Inter.
Oui, mais ça revient tout ça. Je tenais à vous dire aussi que la semaine dernière, d'abord vous remercier, parce que j'ai eu beaucoup de mails sur l'eau, donc émission évidemment imparfaite parce qu'elle était tout à fait incomplète. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous avez ce qu'on appelle les carrefours de la gestion de l'eau, qui se passe à Rennes tous les fin janvier et qui est vraiment une réunion, les carrefours de la gestion le local de l'eau. Donc à Rennes fin janvier, vous avez 13 000 personnes donc qui s'y rendent, donc c'est les professionnels et vous avez le site aussi de CO2 Mon Amour si vous voulez aussi aussi poursuivre le voyage. Et on les remercie parce qu'ils nous ont aidés aussi pour la réalisation du reportage la semaine dernière. Sébastien Boller, avec cet ouvrage, Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. C'est aux éditions Robert Laffont. Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon foutu cerveau? Parce que nous sommes quand même la résultante de notre héritage évolutif. Et alors là, c'est pas de la tarte. On pouvait se dire, bah tiens, c'est bien, je suis un être doué de raison. Ouais, tout, alors, à part que ça remonte à 200 000 ans à peu près, ça, cette affaire.
Oui, moi, ça vient, c'est 200, 300 000 ans. C'est cette échelle de temps qu'il faut prendre en considération quand on voit finalement la singularité qui se profile. C'est-à-dire qu'on va peut-être être l'espèce qui va détruire la planète. Ça s'annonce en tout cas comme ça.
C'est pas mal, c'est bon là, jusqu'à présent.
Voilà. Et donc, comment c'est possible d'en arriver là? C'est-à-dire que l'être humain, il s'est développé grâce à son intelligence. Hein. Il arrive à envoyer des fusées dans l'espace, à construire des petits smartphones qui tiennent dans la poche, à sauver les gens de la mort, à inventer des antibiotiques. Donc, c'est une intelligence prodigieuse qui nous a permis de conquérir la planète. Et comment se fait-il qu'à ce moment-là, on soit incapable, collectivement, vraiment de prendre conscience des enjeux, prendre conscience de l'urgence et agir comme il faudrait agir maintenant si on était vraiment intelligent?
Alors, il se trouve que l'on a quand même des impératifs qui nous sont tombés dessus, qui sont au nombre de 5. Et ça, c'est un leitmotiv, en fait, qui revient.
Oui, en fait, l'histoire de la vie, elle est fondée sur le principe de la survie, vraiment, de la sélection naturelle. Et depuis très longtemps, en fait, depuis l'apparition des premiers vertébrés, hein, dans les océans du précambrien, s'est mis en place un système qui s'appelle le système de récompense, qu'on peut observer aujourd'hui grâce aux IRM, qui est une structure cérébrale qui s'appelle le striatum, qui fait à peu près la taille d'une grosse prune, comme ça s'appelle striatum parce que c'est un petit peu strié, voilà, quand on l'observe. Et ce striatum, il nous aide beaucoup, il nous a aidés pendant des millions d'années, nos ancêtres aussi, les primates, et puis nous, en fait, à optimiser notre rendement d'être vivant. C'est-à-dire à rechercher de la nourriture, à rechercher à se reproduire le plus possible, à chercher à se hisser au-dessus des autres, la comparaison sociale, à glaner des informations vitales dans notre environnement et puis à minimiser nos efforts. C'est ce qu'on appelle les 5 grands renforceurs primaires du cerveau. C'est ce qui sous-tend nos motivations fondamentales. Et on comprend pourquoi ça aide à survivre. Ça permet de trouver à manger.
Quand on invente la roue, d'ailleurs, avec notre intelligence, ça veut dire effectivement qu'on va faire moins d'efforts en inventant la roue.
Tout à fait, exactement. Et pendant longtemps, cette partie de notre cerveau, elle a dû battre taillé ferme, voilà, pour frayer son chemin dans le monde du vivant. Et puis, il s'est passé autre chose. À partir du moment où Homo sapiens a commencé à connaître son essor, c'est-à-dire qu'il y a une autre partie du cerveau qui est arrivée dans le jeu, qui est le cortex cérébral, cette partie extérieure plissée, la partie plissée du cerveau, qui, elle, est le siège de l'abstraction, de l'intelligence, de la planification, et qui permet de construire la technologie. Et le problème, c'est que ce cortex très intelligent a toujours été mis au service des 5 grandes pulsions fondamentales. C'est-à-dire que toutes les technologies qu'on a créées, quand on les regarde, point par point, elles servent toujours à remplir ces 5 besoins fondamentaux. De manger, de se reproduire, de chercher du statut social, de l'information et du confort. Et quand on regarde aujourd'hui...
Ce qui a très bien compris le marketing et la pub.
Voilà, ce qui a très bien... Exactement. Et ce qui aujourd'hui nous joue des tours. Parce qu'aujourd'hui, l'obésité, c'est un des premiers fléaux de l'humanité.
Oui.
C'est un des premiers fléaux aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On meurt plus de suralimentation que de la faim dans le monde aujourd'hui, rapport de l'OMS. Donc ça, c'est notre striatum qui demande toujours plus de nourriture parce qu'il n'a pas de fonction stop, il n'a pas de frein. Deuxièmement, si on regarde ce qui fait vraiment le moteur du numérique, de l'industrie d'Internet, c'est en grande partie les vidéos pornographiques aujourd'hui. C'est 136 milliards de vidéos visionnées à l'année.
Ah, quand même.
Ouais, voilà. Et ça, c'est notre striatum qui demande du sexe sans arrêt. Il a été mis à la diète pendant des millions d'années parce que dans la savane, c'était pas facile de trouver des partenaires faciles.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Mais aujourd'hui, on peut en trouver 10, 20 sur des sites pornographiques. Et donc, ça tourne en boucle. Et comme ça, besoin par besoin, on voit qu'on est dans une escalade permanente.
Bon, mais alors, qu'est-ce que l'on fait avec ça? On se fait retirer le striatum
Alors, si on se fait retirer le striatum, enfin, ça arrive, mais accidentellement, c'est dramatique, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus envie de rien et on meurt.
C'est pas bon.
Voilà. Donc, le striatum, c'est la vie. Mais le problème, c'est que la vie, elle arrive devant une impasse. Parce qu'elle a tellement tout envahi, enfin la vie humaine, qu'n'ayant pas de frein, elle est en train de griller ses dernières cartouches. Donc il faudra trouver un moyen finalement d'activer cette partie de nous qui demande du plaisir, mais avec autre chose que ces 5 grands piliers de la consommation.
Donc il faut essayer de le réorienter autrement, quoi.
Voilà. Alors il y a des pistes. Le partage, l'altruisme, par exemple, on s'est rendu compte que ça peut activer le striatum, notamment chez les femmes.
Qui sont plus doués pour ça.
Oui, quand on fait des expériences en laboratoire, par exemple, on vous donne une somme d'argent, on vous dit vous pouvez la garder pour vous ou la partager avec un inconnu. On voit que
les femmes se mettent dans la poche
et ils activent leur striatum en gardant dans la poche, alors que les femmes partagent souvent et activent cette partie pulsionnelle de leur cerveau en partageant. Alors, c'est pas lié à des hormones, une différence de sexe biologique, c'est lié à un conditionnement, en fait, c'est que les petites filles, depuis qu'elles sont tout petites, on les félicite quand elles partagent, ça c'est les études sociologiques qui le montrent très bien, alors que les petits garçons, on les félicite quand ils se battent pour leur, pour leur bout de gras. Voilà.
Alors, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, pour nos sujets environnementaux donc, qui nous concernent, on peut s'appuyer peut-être davantage sur les femmes, on s'en rend compte, hein, très
elles sont
souvent,
peu, oui.
Qu'elles sont voilà. Parfois plus en avance quand même que les mecs.
Et oui, elles sont à l'avant-garde et elles ont bénéficié de ce conditionnement qui... aujourd'hui, dans un milieu qui reste concurrentiel, compétitif, les désavantages, mais dans un avenir idéal de l'humanité, ça devrait être étendu aussi aux petits garçons. On devrait valoriser socialement les comportements tournés vers l'environnement, tournés vers l'altruisme, le partage, la sobriété, parce qu'à ce moment-là, ça nous permettrait d'éprouver du plaisir en se comportant de cette façon, et donc de le vouloir profondément, d'associer le désir aux conduites saines. Mais pour ça, il faudrait que ça devienne une norme sociale.
Alors Sébastien Moller, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui un décalage entre les défis environnementaux et notre plasticité, on va dire, cérébrale pour y répondre. C'est-à-dire que comme on a été conditionné avec donc ces cinq merveilleux points que vous avez donc évoqués et qui nous font vivre aussi. Donc il y a ce décalage. Mais on peut peut-être ajouter aussi que la sélection naturelle a toujours été en fait un processus assez égoïste. C'est-à-dire que la sélection naturelle, elle agit sur l'individu, mais elle n'agit pas sur le groupe.
Exactement.
Et là, on a besoin de groupe.
Exactement. La sélection naturelle, c'est le principe de concurrence entre les individus. Et le problème, c'est qu'on s'est mis dans un piège en créant un système économique, financier et politique qui en fait épouse ce schéma-là. C'est-à-dire le système concurrentiel, le système de la consommation par l'individu, le néolibéralisme, ses bases fondamentales, c'est de mettre en concurrence les individus par le système de la comparaison sociale. Dans les années 20, les chaînes de production s'engorgeaient aux États-Unis. On a trouvé l'idée de stimuler la jalousie entre les gens, en disant « vous avez déjà une voiture, c'est pas ça qui compte, si vous voulez être mieux que le voisin, il en faut une deuxième ». Et le rapport Hoover à l'époque disait qu'ils avaient là ouvert des perspectives infini pour la consommation, parce qu'on pouvait créer des désirs à l'infini. Donc il faut créer un système politique qui ne fait pas que accompagner ce striatum qui nous joue bien des tours, mais qui pourrait le contrebalancer.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les nudges. Alors ça, les nudges, c'est ces politiques publiques qui se fondent sur un effet, on va dire, psychologique et comportemental. Et on peut aussi essayer de les réorienter vers du positif environnemental. J'ai vu qu'il y avait une compagnie aussi d'électricité qui s'appelle O'Power et qui demande, ils ont une obligation aux États-Unis aussi, qui demande donc de faire baisser la consommation électrique. Ils ont fait des expériences donc sur plein de ménages. Ils ont envoyé une lettre de manière tout à fait aléatoire, dans laquelle on leur donnait leur consommation d'énergie et aussi celle des voisins pour se situer. Donc là aussi, on retrouve cette fameuse comparaison. Et ça reposait sur la comparaison sociale. Ils en sont arrivés quand même à moins 2 à 3%, ce qui est quand même pas neutre du tout. Ce qui veut dire que l'on peut, avec notre même striatum, réorienter donc les choses.
Oui, si on a l'impression qu'on a une majorité à adopter le bon comportement. Le problème, c'est souvent on croit qu'on est seul un petit peu à vouloir adopter un bon comportement. Donc on dit soit ça sert à rien, soit je vais me faire doubler par les autres. Donc en envoyant des messages à la population en disant par exemple 90% de vos voisins trient leurs déchets, là, à ce moment-là, on sent à la fois que ça va être valorisé socialement. Or, la valorisation sociale est un des grands stimulateurs du striatum. Et en plus, on se dit que c'est pas complètement inutile. Ça permet de sortir ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier.
C'est ça, voilà,
ouais. Se dire que si je suis le premier à réduire ma consommation ou à réduire ma croissance économique, à ce moment-là, je vais perdre des marchés, je vais perdre en influence dans la sphère géopolitique.
J'ai presque dire d'où aussi le succès des familles à énergie positive, parce que ça repose un petit peu là-dessus. On s'en compte aussi, en filigrane, c'est qu'il vaut peut-être mieux cibler sur le local ou peut-être l'émotionnel est plus positif, peut-être que sur du très très grand collectif, parce que on se rend compte qu'on est capable de se soucier sérieusement d'environ 150 personnes autour de nous. Ça aussi, ça vient de cette époque-là dont
oui, notre cerveau a été en grande partie façonné pour interagir avec les groupes d'environ 100 à 150 personnes. Ça, c'est des études de l'Université de Liverpool qui ont montré ça de façon extraordinaire. La taille de notre cortex est faite pour enregistrer 150 relations humaines suivies, pas du tout celles qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, des personnes dont on prend des nouvelles au moins 2 ou 3 fois par an, dont on se souvient à peu près la date de l'anniversaire, un vrai rapport humain, ouais, c'est ça, c'est à peu près 100 à 150 personnes, on est fait pour du local. On a créé une société globale qui ne correspond pas forcément à nos structures profondes.
On va poursuivre donc ce voyage avec vous et puis on va retrouver donc aussi Alexandre Rambaud, donc notre économiste, et puis dans quelques instants, mais restez avec nous parce que ça va être une jeune fille qui, elle bouge, elle fait bien bouger son striatum de façon positive. C'est Laure Catel, ça va être notre reportage après cette chanson.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un Rasta sans pétard, comme un Corse sans pétard, une Normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Une page de pub sans lessive, si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racine, comme le théâtre sans racine, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte.
Comme un manouche sans guitare, vous l'avez reconnu, c'est Thomas Dutronc sur France Inter.
CO2, mon amour.
Moi, je serais un arbre ou bien une tulipe, un océan ou même un bidon d'huile recyclée. Ben, je me ferais interviewer par Denis Chessou dans CO2, mon amour.
Sur France Inter.
Bon, c'est bien gentil, surtout le bidon d'huile. Moi, j'adore interviewer les bidons d'huile. Mais là, c'est plutôt Sébastien Boller, donc notre docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, le bug humain. Une chose que l'on n'a pas dit, notre cerveau est-il capable de partir sur, allez, 50, 100, 100 ans, de 200 ans, est-ce qu'il est programmé pour se projeter, comme on dit?
Il est capable de se dire, on a le temps, alors que c'est ça le problème.
Ah oui.
Il est sensible qu'à l'instant. Ce système dont je parlais, le striatum, ne valorise les récompenses que à court terme. Il n'a pas la notion du temps. Donc c'est ce qui fait que on n'arrive pas à sentir l'urgence. Moi, j'aime beaucoup quand Greta Thunberg, l'activiste suédoise, dit, il faut paniquer. Mais on n'arrive pas à paniquer. Parce que à nos échelles de vie, là, 2-3 ans, on sent pas. À moins d'être comme vous, des observateurs avertis, on est chez nous, dans nos petits appartements, on voit pas l'urgence. C'est à cause de ce fonctionnement de la dopamine dans notre cerveau qui réagit uniquement aux offres qui nous sont faites sur le moment. Quand on nous dit vous pouvez cliquer sur un bouton et avoir à manger tout de suite, vous pouvez cliquer sur un bouton et vous acheter une berline suréquipée, c'est ça qui compte. Si on vous dit dans 20 ou 30 ans, ça va être la catastrophe, cette partie de notre cerveau qui dirige nos désirs est sourde, aveugle à ça.
Donc ça veut dire qu'il faut pas donner des choses tout de suite aux enfants, il faut les faire patienter.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la profondeur du temps, en passant par une forme de, allez, une petite frustration quand même, c'est-à-dire se forcer à patienter. Ça veut dire aussi, pas de plat tout préparé, ça veut dire réintroduire des moments où on reprend la dimension du temps, et où on sort aussi de cette accélération permanente qui nous est dictée à la fois par les marchés, à la fois par la concurrence des offres sur Internet. On s'énerve aujourd'hui quand une application ne télécharge pas en 10 secondes. Nos esprits sont formatés pour aller de plus en plus vite. Il faut aller dans l'autre sens. Comme vous le dites.
On a créé de l'impatience, c'est incroyable. Tenez, 01 56 40 40 35, bah, là encore, il y a des gens qui bougent.
Bonjour les amis de CO2, nos amours. Vous avez remarqué que la jeunesse fait parler d'elle?
Oui, on va faire une grève mondiale le 15 mars.
Merci qui?
Merci Greta.
Mais aviez-vous remarqué que les plus âgés ne faisaient guère parler d'eux? Pourtant, ils se groupent depuis longtemps en association.
À Versailles?
Oui, à Versailles. Ils se font gazer quand ils veulent que les banques proposent des financements propres.
À Versailles?
Non, pas à Versailles. Ils s'informent et proposent pour le plan climat, air, énergie territoriale.
À Versailles ?
Eh oui, à Versailles. Ils organisent les marches du climat.
À Versailles ?
Eh ben oui, à Versailles. Alternativa à Versailles et Citoyens pour le climat vous proposent de les rejoindre samedi 16 mars à 11h devant le château pour une marche familiale, festive et chaleureuse. Changeons le système, pas le climat.
Voilà, ben oui, non, ça y va. Non, c'est bien, ils font ça à 11h, comme ça ils pourront être à 14h comme vous, peut-être au Salon du Livre, parce qu'on sera en direct du Salon du Livre à 14h, je vous le dis déjà. Allez, tenez, on respire, direction la Bretagne. Ah ben non, je vais pas jouer avec toi tout de suite. Eh ben non, parce qu'il faut que j'interviewe ta maîtresse, comment il s'appelle ?
Yuki.
Yuki, bon, et vous, c'est Catel ?
C'est Catel, oui.
Voilà, nom breton, Catel Laure. On est à 5K, donc 5K, le Guildo. Et alors là, on arrive dans votre ferme. Et racontez-nous quel est votre projet, parce que vous êtes toute jeune. Et vous êtes installée là depuis combien de temps ?
1er mai 2013,
ouais.
La ferme et l'entreprise Galette. Et moi, j'ai toujours vécu avec les animaux et j'ai monté la ferme. Ça fait 9 ans maintenant que je cherche à m'installer. Donc voilà, j'ai monté tout petit à petit, moi-même, tranquillement.
Et à vous présenter comme étant galetière.
Oui, même le projet, c'est une ferme agriculturelle. Ouais. Et moi, je suis l'humaine de la ferme qui fait des galettes, quoi, qui est paysanne galetière.
Donc, l'approvisionnement, c'est le blé noir.
C'est le blé noir, oui.
Sarrasin, bio aussi.
Oui, les cultures, les galettes sont passées en bio. Tout est en bio. Ça n'a même pas été un choix, c'était une évidence.
On n'en croise pas tous les jours. Et pourtant, vous en mangez. Donc, une galetière, elle s'appelle Catel Laure. Catel étant donc son prénom. Nous sommes dans les Côtes d'Armor. Vous voyez Saint-Malo ? Parfait. Après, nous approchons, vous voyez Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une très belle abbaye. Très belle abbaye. Et j'avais été pour faire une causerie sur Jean-Marie Pelle, parce que Jean-Marie, il aimait beaucoup se retirer donc là-bas. Et puis, on m'a dit, mais et à côté, là, tu vois, à Saint-Cal-Guido, là. Mais juste derrière, il y a cette jeune femme qui est là et à mon avis, un petit tour de vélo, ce serait pas mal. Allez, Catel Laure, donc elle a une trentaine d'années, et avec l'idée de marier, allez, on y va, la culture, les arts et les galettes.
C'est ça. À la base, c'était la ferme avec les animaux, et je trouvais pas vraiment le projet qui me convenait, et ni assez de terre pour m'installer sur le secteur, en fait. Donc, du coup, j'étais obligée de travailler à côté. Je suis partie de 50 galettes au début, où maintenant j'en fais 1000 par semaine. Moi, mon but, c'est vraiment de me fondre en fait dans l'environnement, quoi, en fait, de fondre la ferme dans l'environnement. Et ben, en fait, moi, je veux mêler maintenant un peu quand je fais de l'accueil. J'ai un projet d'accueil sur la ferme autour des animaux. Ça serait d'y mêler les contes traditionnels, du chant traditionnel et surtout la langue galaise, en fait, parce qu'ici, on est du pays gallo. Je trouve que ce qui commence à être vraiment urgent dans notre société, c'est que les gens n'ont plus du tout de contact à la terre, une grosse majorité en ville. Et du coup, ça serait vraiment de les ramener à la terre autour des animaux. C'est très intéressant le travail que les animaux font en lien avec les êtres humains quand on descend un peu de notre piédestal et qu'on rentre dans le champ et on sent notre humilité parmi des animaux qui font 600 kilos, d'autres qui sont en troupeau. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de développer maintenant.
C'est-à-dire que vous avez envie de recoudre ce lien entre le vivant et les hommes.
Exactement.
Ce que je trouve intéressant, c'est votre dynamisme. C'est-à-dire que vous avez fait le constat sur cette société où on est, où globalement, on ne sait pas produire sans détruire. Bon,
c'est ça.
Avec des nuances près, hein, quand même, mais c'est quand même ça. Et vous partez vraiment du postulat inverse.
Oui, parce que je pense que tout est réinventé, ou du moins pioché à gauche, à droite. Il y a des choses bien partout, dans tous les circuits. Je parle agricole parce que moi, je connais plus l'agriculture. Et c'est ça, c'est peut-être mon petit côté... chercheur, voilà, c'est vraiment d'aller piocher un peu partout et de recréer tout quoi, en fait.
Vous portez, on va dire, ces valeurs-là. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, justement, à travers tout cela ?
Moi, j'ai fait un BTS gestion d'espaces naturels et on avait un professeur qui nous disait il faut penser globalement et agir localement.
Oui.
Et en fait, je le retrouve vraiment dans la vie de tous les jours, où ma ferme, je la pense dans l'univers, pour être vraiment large.
Oui.
Et par contre, avec des actions bien concrètes, avec mon petit troupeau de races anciennes, donc adaptées au terroir, vraiment une petite ferme, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un contact vraiment avec chacun de mes animaux, où je me prends plus pour le chef d'orchestre en fait de la ferme. Autant que eux, il y a les moutons, il y a les chèvres, les chevaux, les vaches, et on essaie de faire tous la même chanson.
On va voir le chœur là, parce que justement vous avez parlé de race ancienne. Oh bah oui, on n'est pas très loin d'Ouessant, là je vois qu'il y a des... C'est des petits moutons d'Ouessant, c'est ça?
Des petits moutons d'Ouessant, oui.
Alors ça veut dire qu'on est très résistant et qu'on ne décolle pas au vent quand on est un petit mouton d'Ouessant.
Exactement, c'est très très rustique. Et ils ont une laine en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est très intéressante. Voilà. Et moi avec une amie qui fait des fleurs en traction animale à côté, notre but c'est d'apprendre à travailler la laine en feutrage et donc d'utiliser la laine de nos moutons. Donc on les tond. Et on apprend petit à petit à travailler un petit peu la laine des moutons, voilà, pour faire tout le cycle. Le but, c'est vraiment que chaque espèce ait son boulot dans la ferme et que moi, j'arrive à faire tout jusqu'au bout, quoi, en fait.
Alors, parlons des poules et parlons aussi des chèvres.
Alors, les poules, là, j'ai majoritairement de la coucou de reine.
Ouais.
Donc, c'est pour les œufs, hein, tout ça. Et là, j'ai un peu diversifié tout ça avec donc j'ai de la maransque, qui est un petit peu plus large en France. Et il y a de la noire de Janzé aussi, qui est une poule à faible effectif du côté de Rennes, et, qui est très rapide. Et il semblerait qu'elle mange bien tout ce qui est frelon asiatique. Donc voilà, et là, on a la sieste, là, mais c'est trois oies, des oies de Bavant.
Oui, donc, ça ne va pas les déranger, là, parce que ça roupille, là.
Oui, c'est des oies huppées, qui sont aussi à faible effectif.
Ouais. Et elles sont pas trompées quand même d'arbres fruitiers là. Hein.
Non, elles sont sous un néflier.
On est sous le néflier, voilà. Et alors nos chèvres, où sont-elles là?
Alors, enfin, elles sont dans non, elles sont dans un champ un peu plus loin, c'est des chèvres des fossés. Et elles c'est pareil, c'est un troupeau de 10, j'en trais 2, où je garde mon lait, je fais des petits fromages pour la famille, voilà. Et donc il y en a 10 parce que le projet c'est qu'à partir de l'année prochaine, de mars à septembre à peu près, on a une vingtaine d'hectares de landes du Cap Fréhel qu'on va aller entretenir quoi, en fait. Donc en lien avec la mairie de Plévenon. Et donc voilà, en gros pendant 6 mois de l'année on part en estive sur le Cap et tout le monde y va ensemble, les chevaux, les vaches, les chèvres, les moutons.
C'est un sacré projet, enfin, c'est même une réalisation. Donc maintenant, c'est-à-dire que vous voulez à la fois habiter le territoire, le faire vivre, laisser le minimum, on va dire, d'empreinte écologique. Hein,
c'est pas... Oui.
Alors, est-ce que vous discutez avec d'autres personnes? Vous êtes contagieuse? J'imagine qu'il y a quand même pas mal de Bretons, on le sait, hein, qui ont une sensibilité à l'écologie assez affirmée. Quoi.
Contagieuse, je ne sais pas, parce que c'est quand même un projet très atypique. Donc...
C'est un peu environné quand même d'usines à cochons. Hein.
Oui, et même surtout de l'agriculture conventionnelle. Et donc j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal quand même à me fondre dans ce paysage-là en tout cas. Souvent j'ai été prise pour une rigolote quand même.
Bah, ils vous prennent peut-être pour une rigolote, mais n'empêche que vous avez des résultats, donc là ça calme un petit peu.
Oui, je commence à avoir des résultats. Je me suis entourée en fait d'associations ou de réseaux. Maintenant ça y est, je commence à relativiser tout ça et puis à vraiment profiter de la ferme qui se construit et qui commence à être vraiment très intéressante.
Alors Katel, là, on a bougé un peu et là on se retrouve devant d'autres animaux. Allez, nos quadrupèdes. Donc oui. Là on a les vaches et les chevaux, dedans. Très jolie, hein. Belle robe, qu'est-ce qu'on va dire, rousse, froment.
Froment, voilà.
Là, d'ailleurs, c'est son nom.
C'est son nom, froment du Léon.
Froment du Léon.
Donc c'est des vaches, pareil, à faible effectif, qui sont spécialistes du beurre. Le lait est très riche, il est de couleur quasiment de la crème, quoi. C'est assez impressionnant. Hein. Et du coup, il fait un beurre vraiment très fort, très jaune, un très bon goût. Quoi.
Ce qui est dingue, c'est qu'elles ne le savent pas, là.
Non.
Ah ouais. Elle mange pas de beurre. Hein.
Ah non, elle mange pas de beurre. Elle mange de l'herbe, des ronces, des fougères, un peu tout ça.
Bah, elle vous nettoie quand même le paysage. Hein.
Ah bah c'est le but. Elle, c'est leur.
Ah oui, voilà. Bien sûr.
Parce que le but dans les mois à venir, ça va être de commencer la traction animale, bovine et équine. Travail de la terre. J'aimerais vraiment tout faire parce que le travail du sol en traction animale est complètement différent. Mm-hmm. Sans oublier le prix du gasoil qui flambe. Voilà, du coup. Traction animale, voilà. C'est une structure, 3 hectares de blé noir, c'est faisable.
Et nos chevaux, notre cheval là?
Alors, il y en a 5, ouais. Deux poneys retraités de centre équestre de 28 et 24 ans. Après, il y a ma jument de sel de quand j'étais jeune, avec son poulain de sel qui va, lui, est en cours de débourrage.
Ah, ça y est, ils sortent, ça y est, je les vois maintenant, un peu près, quoi. Oui.
Et du coup, après, ça va être donc le trait, Sarouel, le chef un peu, voilà, le trait de 800 kilos, très breton.
Et c'est celui-là.
Moi, ils ont tous un travail, et souvent, quand ceux qui sont jeunes au début grandissent, et quand ils sont assez mûrs, je les observe pour savoir quel travail ils ont envie de faire, enfin quelle spécificité ils ont et qui pourraient mettre en route dans la ferme, en fait. Et c'est sympa de voir où des fois ça tombe juste, des fois je leur propose un boulot et je vois en deux jours que c'est pas du tout le bon boulot, ils font n'importe quoi. Voilà, j'ai appris ça, il m'a fallu quand même quelques années pour apprendre ça et ça commence à venir.
C'est de l'étude de comportement aussi.
C'est voilà, ça. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une belle chanson, une belle harmonie.
Eh ben merci.
C'est ça.
C'est gentil.
Et puis à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Elle est fraîche, elle a des idées, elle fonce, qu'a-t-elle l'or, donc à 5 Alguilo, qui a besoin aussi de financement participatif, hein, disons-le, parce que quand elle développe un peu son affaire, donc pour les galettes, ça va pas mal, mais après, donc avec les animaux, elle a envie d'aller un peu plus loin, donc vous avez le site sur le site de CO2, mon amour, Mimosa, et puis vous avez, si vous voulez la voir, vous l'avez aussi sur le Twitter, chez Sou, hein, tout simplement, il doit y avoir une vidéo donc qui traîne d'elle, si vous en souhaitez en savoir plus. On va s'intéresser à la comptabilité environnementale, après cette chanson. Into the Sun, c'était Mandoline Orange sur France Inter. Et après, notre bug humain, et ben un autre bug un peu comptable.
Tu sais ce que c'est que la finance?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
Non, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments.
CO2, mon amour.
Putain, y a rien de réel.
Okay. Tu piges. Mais, écoute-moi bien. Mm-hmm.
Denis Chessot.
On ne crée rien. On ne construit rien.
Sur France Inter.
Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche de tes clients.
ça.
Pour le mettre dans la tienne.
Oui, non, c'était pas mal en écoutant le son qu'il a choisi Jérôme Boulet. Voilà. Alexandre Rambaud, donc, avec nous. Donc, on a eu ce bug humain. Alors maintenant, on va voir s'il n'y a pas aussi un bug un peu comptable. On va détailler cela. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, chercheur associé à l'université, donc, Paris-Dauphine. Et alors, la référence quand même suprême dans la comptabilité, c'est pas forcément l'environnement, racontez-nous.
Non, alors la comptabilité, donc c'est un peu la base hein, des entreprises, le cœur de l'entreprise hein, et le cœur des systèmes socio-économiques. Et actuellement, la comptabilité ignore totalement les questions et les préoccupations environnementales et sociales.
Et pourtant, il y a des rapports de RSE, comme on dit, donc ça existe quand même aussi.
Oui, alors il y a des rapports qui sont annexes, donc les entreprises des années 90 produisent, les grandes entreprises produisent ça, mais c'est totalement à la marge de la gestion des entreprises, c'est quasiment pas lu, sauf par quelques investisseurs consciencieux, mais enfin, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact réel. À l'heure actuelle. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à demander quelques modifications. La France est assez en avance, et l'Union européenne aussi, sur ces enjeux. Dans la suite du Grenelle, il y a eu l'article 225 du Code du commerce qui oblige maintenant les grands groupes cotés à publier dans leur rapport annuel, donc à côté du bilan compte du résultat, une déclaration de performance extra-financière, mais qui reste encore non normalisée avec un certain nombre d'informations qui sont pas complètement comparables. Ça pose encore beaucoup de questions.
Ce qui veut dire que lorsqu'on a une dégradation, si on prend par exemple l'exemple des sols que vous connaissez donc assez bien, un sol aujourd'hui, c'est quoi son statut ? Il a un statut le sol ou pas ?
Oui, alors le sol aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Ça va être, il va être passé en actif. Hein. Ça va être quelque chose qui est purement un objet, en fait, historiquement, dans la comptabilité, c'est une chose morte. Les actifs à la Renaissance ont été classés en choses mortes, qui n'est là que pour générer des services pour les êtres humains et, en fait, au niveau de l'entreprise, pour augmenter la valeur actionnariale. Donc, c'est tout, en fait.
Ça n'a pas bougé depuis la Renaissance.
Non, ça, en fait, le statut de la nature, de l'environnement, est considéré comme, en fait, ne devant procurer que des avantages économiques futurs pour les actionnaires et absolument pas être pris comme des sources de préoccupation en tant que telles dans la comptabilité. Alors, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que dans le niveau actuel, qui est à peu près le niveau 0, voire moins 1 parfois, il n'y a carrément pas d'informations complémentaires là-dessus. C'est-à-dire que c'est implicite, mais il n'y a même pas d'informations là-dessus.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une sensibilité donc à l'environnement à travers cette comptabilité, qui n'en tient absolument pas compte.
Non, alors il n'y a absolument aucune sensibilité et les propositions qui sont en train d'être faites pour essayer de dire bon, on va intégrer les enjeux environnementaux via ce qu'on appelle le capital naturel. En fait, ces propositions, alors ce qu'on appelle de reporting intégré, donc on intègre les enjeux environnementaux, sociaux et financiers en même temps dans le bilan et le compte de résultat, sont en fait des optimisations de l'exploitation au maximum de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut rationaliser méthodologiquement le fait de générer de plus en plus de flux de valeur, notamment de l'environnement, des sols, hein, donc par une exploitation, une optimisation encore plus poussée.
D'accord. Alors, ça veut donc dire que lorsqu'une entreprise, on va dire s'il y a un risque pour une entreprise, le risque environnemental, c'est lequel pour elle ?
Voilà. Alors là, on parle beaucoup de risques pour les entreprises.
Parce qu'on se dit, si une entreprise donc risque de polluer, donc là, ça va être important, elle va être obligée de payer.
Dans la quasi-totalité des cas, en fait, les risques quand on parle au niveau de l'entreprise, c'est les risques que fait courir l'environnement sur l'entreprise et absolument pas l'inverse, c'est-à-dire les risques que l'entreprise fait courir sur l'environnement.
Ah. D'accord, c'est le risque que l'environnement
voilà,
peut faire courir
exactement.
Sur l'entreprise. D'accord.
C'est-à-dire qu'on est dans une optique qui est risque versus opportunité. Donc c'est qu'est-ce que l'environnement peut apporter comme opportunité et qu'est-ce que l'environnement peut faire courir comme risque à l'entreprise, et on va faire une analyse coût-bénéfice par rapport à ça. Et donc on va essayer d'optimiser par les systèmes comptables qui sont en train, les propositions qui sont en train d'arriver, d'optimiser cette réflexion.
Alors donc en vous écoutant, ça veut dire que on se fiche un peu de garder le vivant en bon état, un écosystème en bon état.
Ben, c'est-à-dire que
c'est pas comptabilisé.
L'écosystème en tant que tel, en fait, n'existe pas réellement, en fait, que ce soit, alors vraiment dans la comptabilité actuelle, mais même dans la plupart des propositions qui sont faites pour changer la comptabilité, l'écosystème en tant que tel n'a absolument pas de représentation, n'est même pas dans la pensée. Alors, il existe des propositions par rapport à ça, et notamment avec un certain nombre d'anciens chercheurs et de professionnels, on plaide pour le développement d'un modèle qui s'appelle notamment le modèle CARE, mais qui est totalement différent, qui est basé justement sur cette préoccupation. Et là, au lieu d'avoir cette valorisation des flux potentiels de valeur pour les actionnaires, l'idée, ce serait en fait de mettre en avant les coûts nécessaires au maintien véritablement, par exemple, du sol comme écosystème, et non pas comme chose purement productive.
On en est où? Parce que ça doit faire peur, ça.
Ça fait assez peur à certains acteurs.
Ah oui,
on en est où? On en est que justement cette réflexion commence
vraiment
à émerger.
La réalité, elle est là, c'est-à-dire qu'on est en train de suivre une suite de chaos. Là aussi, peut-être que notre cerveau peut bouger un petit peu.
Complètement, oui.
Et c'est aussi ça qui fait bouger les gens, malheureusement.
Oui, c'est-à-dire que de toute façon, si la comptabilité ne bouge pas, il faut être clair. Donc le corps des organisations ne bougera pas, l'entreprise ne bougera pas, et le système économique ne bougera pas. Ça, c'est clair. Maintenant, s'il bouge en allant dans le sens de on essaye d'optimiser encore plus donc la productivité de notre environnement, ça va être pire. Et donc, on en est à un point où voilà cette réflexion sur comment intégrer et créer un nouveau dialogue au niveau des coûts nécessaires au maintien de l'environnement devient profondément nécessaire. Et cette réflexion commence à émerger en France, en tout cas.
Alors, non, c'est intéressant parce que d'un côté, on a notre bug avec notre cerveau, notre fameux striatum. On l'a compris avec vous, Sébastien Boller. Avec vous, donc, Alexandre Rambaud, on voit bien qu'il y a aussi un bug comptable. Comment on fait? Alors, Sébastien Boller, je parlais des chaos. Moi, je suis pas du tout millénariste sur sa colline en train de prêcher les catastrophes, loin de là. Mais je veux dire que le cerveau humain, comment il bouge lorsque vous avez justement des catastrophes? Est-ce que il va recommencer ou est-ce que ça le fait bouger? Ou pas, ça, lorsqu'on est impuissant face à des inondations, face à une tornade, face à...
Alors, le cerveau humain, il réagit de plusieurs façons. D'abord par la sidération, c'est les états de choc,
bien
effectivement.
Sûr.
La sidération, le plus souvent, empêche de mettre en branle des mécanismes de délibération rationnelle. C'est déjà un premier problème. Après, il y a les mécanismes du déni, tout simplement. L'incapacité de reconnaître la durabilité d'un problème, parce que on cherche à se rassurer toujours, et puis toujours quand même l'envie de retrouver du pouvoir et des forces de subsistance en exploitant son environnement. Je pense que c'est pas une nouveauté. Alors c'est intéressant ce qui vient d'être dit, c'est que c'est à la Renaissance quand même qu'on voit les premières traces écrites qui font de la nature quelque chose à exploiter et non pas une source de préoccupation. Et ça rejoint tout à fait le programme philosophique de l'époque de Descartes qui appelait l'homme à devenir maître et possesseur de la nature. Et ce qui est intéressant...
Et bien plus tard aujourd'hui, Descola, effectivement, qui fait la séparation, enfin nature et culture, c'est le thème qui lui est
oui,
extrêmement cher. Quoi.
Et tout ça, c'est dans la lignée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à quel moment on a pu considérer la nature comme une source de préoccupation, qui est comme quelque chose de sacré. Alors, c'est intéressant parce que les anciens plaçaient le sacré et les divinités dans la nature. Et il y a un moment quand même où l'Occident chrétien a placé le sacré dans l'homme. Et toute la nature est devenue quelque chose qui était à mettre au service de l'homme. Donc il y a un questionnement aussi culturel, un questionnement sur les valeurs sacrées qui est vraiment à engager. Et sur notre capacité à tenir compte des catastrophes, le problème c'est qu'on n'en tient compte que quand elles se produisent. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de mal à anticiper la catastrophe au-delà de quelques mois. Nous ne voyons qu'à l'horizon de notre petit striatum et il est assez borné.
Bon, ben voilà, qu'est-ce qui vous semble aussi intéressant? Parce que c'est en train de bouger quand même ce que vous nous dites. Vous faites le constat, Alexandre Rambaud, mais quand même, il y a des pistes.
Oui, alors totalement. Donc ces pistes, comme je le disais, c'est... cette idée de se servir de la comptabilité, d'étendre la comptabilité pour gérer en fait ces coûts de maintien, accompagner donc les entreprises dans le pilotage de ces coûts, créer un nouveau dialogue, et aussi avec les investisseurs, mais aussi les consommateurs. Il y a l'initiative C'est qui le patron, par exemple, qui essaye justement de montrer les coûts pour dire voilà, pour créer une autre base de dialogue. Et ben ça c'est des bases de comptabilité, et c'est totalement dans le système dont je parlais, le système CARE. Il y a la création aussi d'un rapprochement multipartenaire entre AgroParisTech, où je suis ancien chercheur aussi, Dauphine et Reims, pour lancer une chaire qui va accompagner ce type de travail et avoir une plateforme de réflexion.
Eh bien, un grand merci à vous, Alexandre Rambaud. Merci aussi à vous,
merci
à Joanna Gabric, qui était à la technique aujourd'hui, à Camille Blanc. Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé cette émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Semaine prochaine, alors, Salon du Livre, il y avait des vaches, il y aura des écrivains, c'est presque... Non. Alors donc, on aura Pablo Servigne, donc avec nous, Guillaume Gauthier Chapelle, Frédéric Danhé, on parlera aussi de philosophie des oiseaux avec Élise Rousseau, donc vous serez les bienvenus. Rediffusion entre 5h et 6h, le podcast, La Tulle du Mont Petit Loup, 19h54, j'en passe et des meilleurs. Je vous souhaite un très très bon week-end et dans quelques instants, la librairie francophone avec Emmanuel Quérade.
CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, préservons l'équilibre des forêts. Rendez-vous sur www.fr.